Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on se penche sur un moment de bascule pour la Colombie, la fameuse élection présidentielle du 30 mai 1982.
Un scrutin vraiment fascinant, oui.
Exactement. On cherche à comprendre ce qui a vraiment propulsé le conservateur Belisario Betancourt au pouvoir. Et pour moi, en regardant bien le contexte de l'époque, ce n'est pas un hasard. C'est le triomphe d'une offre politique novatrice, un vrai projet de pacification pour un pays, disons, totalement fracturé.
Eh bien, moi, je lis les résultats officiels très différemment. Cette victoire, c'est avant tout un accident mathématique provoqué par le suicide électoral du camp libéral, un camp qui s'est scindé en deux au pire moment.
Sauf qu'on ne gagne pas la présidence juste sur une erreur de l'adversaire. Enfin, je ne crois pas. Remettons un peu les choses dans leur contexte. La Colombie sortait alors de 4 ans de ce fameux Estatuto de Seguridad.
Oui, les terribles années de répression.
Voilà, une répression militaire brutale, des syndicats criminalisés, un état de siège quasi permanent pour contrer le M19 et les FARC. Et Betancourt a compris qu'il devait sortir de son étiquette conservatrice stricte. Il lance le mouvement national, il promet des logements sociaux sans apport, une université ouverte à tous et surtout il propose de négocier directement avec les guérillas. En fait, il a littéralement contourné les libéraux par la gauche.
Il a fait de très belles promesses, ça c'est sûr. Mais l'idéalisme de Betancourt, il se heurte assez vite à un mur arithmétique. Le vrai favori de ce scrutin, on le sait, c'était le parti libéral de López Michelsen.
D'accord, mais à la fin, ils ont perdu.
Oui, et s'ils perdent, c'est uniquement parce que Luis Carlos Galán crée une dissidence, le fameux « Nuevo Liberalismo ». Et là, il rafle près de 11% des voix. C'est plus de 745 000 suffrages qui se sont complètement évaporés pour le candidat officiel.
Attendez, j'ai une question là-dessus. Pourquoi cette dissidence a-t-elle si bien marché, précisément à ce moment-là et dans ce camp-là?
Eh bien, parce que Galán a tapé là où ça faisait mal. L'opacité, le clientélisme et surtout les flux de narco-dollars qui commençaient sérieusement à gangréner les administrations locales.
Des administrations souvent tenues par les libéraux, du coup.
Absolument. Et ça, ça a complètement écœuré la classe moyenne urbaine et la jeunesse diplômée. Et ce sont eux qui formaient justement la base électorale de ce parti. En dénonçant son propre camp, Galán a asséché les réserves de López Michelsen. Betancourt, en fait, s'est juste engouffré dans ce vide électoral.
C'est là que je ne suis pas du tout d'accord avec le terme de vide. Ce n'est pas qu'une simple faille, c'est presque une OPA hostile de la part de Betancourt.
Une OPA hostile, ouais.
Oui, il a profité de cette pourriture interne du système clientéliste pour récupérer les électeurs déçus avec son propre programme social. Les chiffres de participation le prouvent. On atteint 49,81%. C'est un record absolu pour l'époque.
C'est vrai, c'est un record de participation.
Et il a réussi à transformer ce rejet du système en une adhésion massive à son mouvement. C'est vraiment comme si un barrage cédait.
Attention, attention. Cette participation record s'explique par d'autres leviers. La télévision, la radio et justement la campagne coup de poing de Galán. C'est le discours anticorruption de Galán qui a sorti les abstentionnistes urbains de leur torpeur. Ce n'est pas forcément un attrait soudain pour la figure de Betancourt.
Mais si Betancourt n'est qu'un président par défaut, sans véritable assise populaire comme vous le dites, comment vous expliquez sa force de frappe immédiate?
C'est-à-dire?
Dès novembre 1982, donc quelques mois seulement après son élection, il fait passer la fameuse loi 35, une amnistie générale pour les guerrieros.
Oui, la loi d'amnistie, c'est exact.
C'est un acte de défiance inouï envers les hauts commandements militaires et les grandes familles terriennes. On ne prend pas un tel risque institutionnel si on se sait assis sur un simple accident statistique.
Je vous accorde que cette loi d'amnistie était d'une ambition historique. C'est une vraie rupture, je suis d'accord. Mais regardez la suite des événements.
Laquelle?
L'hostilité féroce de l'armée et des institutions face à cette loi. Pour moi, ça prouve exactement ma théorie. Betancourt n'avait pas de mandat sociétal assez solide pour l'imposer.
Ah, je vois ce que vous voulez dire.
Son pouvoir légal reposait sur la division de ses adversaires, pas sur un consensus profond du pays. Ce qui l'a laissé totalement désarmé pour imposer sa paix face aux militaires.
C'est fascinant, car c'est là tout le paradoxe de cette élection de 1982. On a un candidat conservateur qui gagne en s'appropriant des thèmes de gauche, face à un parti libéral qui perd parce qu'il est attaqué sur sa propre corruption, et ce, par l'un des siens.
Exactement. Je suis persuadé que Betancourt avait une vision sincère pour apaiser le pays. C'est indéniable. Mais l'arithmétique électorale fragmentée ne lui a donné qu'un pouvoir très fragile, un pouvoir rapidement étouffé par des structures qui refusaient le changement.
Le pas politique de mai 82 avait donc fonctionné dans les urnes, mais les fondations de l'État colombien, elles, restaient profondément verrouillées. Il reste à chacun de juger si face à l'histoire, la vision d'un homme pouvait suffire là où la mathématique électorale manquait de solidité. Au revoir.
Merci à tous.